Un parcours, une œuvre incontournable dans le domaine de l'anthropologie, épris de voyage et d'exotisme avec le goût pour les différences et les usages inconnus, Philippe Descola est devenu le spécialiste des Indiens d'Amazonie et du rapport à la nature des sociétés humaines. C'est dans la forêt, justement, profonde d'Amazonie équatorienne qu'il a construit sa pensée en étudiant les rapports à l'environnement des Achuar, la dernière grande tribu des Indiens Jivaro. Philippe Descola s'est prêté dans un livre passionnant au jeu de l'entretien avec le philosophe Pierre Charbonnier. La composition des mondes est donc le fruit de cet échange qui paraît aux éditions Flammarion. Ils sont tous les deux les invités de La Tête au Carré. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour. Philippe Descola, anthropologue donc, professeur au Collège de France. Vous êtes titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale qui a été fondé en 1960 par Claude Lévi-Strauss. Et donc dans cet ouvrage, eh bien, vous nous éclairez sur la façon dont travaille un anthropologue et sur le développement de votre pensée autour des rapports humains et de la nature. On va revenir donc avec vous sur quelques-uns des moments fondateurs de votre parcours. Pierre Charbonnier, vous êtes philosophe chargé de recherche au CNRS, spécialiste des rapports entre les sciences sociales et la question environnementale, et c'est donc vous qui avez assuré l'entretien pour ce livre. On va se retrouver dans un instant pour évoquer donc cette composition des mondes avec les auditeurs qui nous rejoignent déjà en direct avec les messages et les questions sur franceinter.fr, également sur les réseaux avec le mot-clé « l'attaque », et puis on retrouvera le quiz scientifique en fin d'émission avec deux nouveaux candidats qui vont s'affronter. Violaine Ballet est aux commandes de cette émission qui a été préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et le mardi, le jour du docteur Dupin. Dominique, bonjour.
Bonjour Mathieu.
De nouveaux travaux remettraient en cause l'intérêt du lait dans notre alimentation.
Oui Mathieu, deux études suédoises viennent jeter un nouveau pavé dans la mare de l'industrie laitière, si vous me permettez cette image. Mm-hmm. Les sujets qui consomment peu de lait meurent moins, font moins de cancers, moins d'infarctus et même moins de fractures osseuses que les gros buveurs de lait. Ces données portent sur des dizaines de milliers d'individus interrogés sur leurs habitudes alimentaires et suivis pendant 20 ans. La presse a donc titré à l'unisson sur les dangers du lait.
Oh, ça me rappelle quelque chose, ça, Dominique, hein, puisque vous nous rappelez régulièrement que ce type d'observation statistique ne permet pas de tirer de conclusions solides.
Et oui, Mathieu, je suis heureux de constater que je ne parle pas dans le vide. Nous sommes face à une stat à la con, une corrélation statistique abusivement transformée en lien de cause à effet par certains journalistes. D'ailleurs, les auteurs de ces études sont très clairs sur ce point. Leurs observations ne sauraient incriminer le lait avec certitude. Pourtant, nous avons une forte convergence des études réalisées sur ce sujet et la mortalité cardiovasculaire est beaucoup plus forte dans les pays nordiques où les adultes boivent régulièrement du lait, mais cette convergence ne constitue pas non plus une preuve définitive. Une donnée intéressante issue de ces études, surtout pour nous Français, c'est que l'excès de risque n'est pas retrouvé pour le fromage et les autres aliments à base de lait fermenté. C'est le lait en tant que boisson qui est en cause. En fait, ce débat est surtout l'occasion de se poser une bonne question. Pourquoi sommes-nous régulièrement incités à consommer des produits laitiers? Savez-vous, Mathieu, à quoi sert le lait de vache?
Bon, je ne sais pas, on en parle de calcium, par exemple, de l'apport en calcium.
Hein. Ouais, mais ça, c'est le message de l'industrie laitière, dont le lobbying semble d'ailleurs avoir contaminé nos autorités sanitaires. En fait, le lait de vache ne sert de façon certaine qu'à une seule chose, faire prendre 200 kilos à un veau en un an. Présenté comme ça, bien évidemment, c'est beaucoup moins sexy.
C'est pas terrible, oui.
Oui. En fait, si les études suédoises ne démontrent pas avec certitude un effet délétère du lait, celles qui montrent ses effets positifs sur la santé chez l'adulte sont tout simplement inexistantes. En tant que mammifères, nous sommes équipés pour digérer le lait pendant nos premières années, mais chez beaucoup d'individus, les enzymes permettant la digestion du lait disparaissent à l'âge adulte. Le calcium dont nous avons besoin pour entretenir nos os se trouve en abondance dans l'eau de boisson, et à moins d'habiter sur un ancien volcan et à ne boire que de l'eau minérale auvergnate, on a tout ce qu'il faut. Je vous signale qu'une vache laitière parvient à produire 10 000 litres de lait par an, à entretenir son propre squelette, et tout ça sans boire elle-même de lait.
Oui, alors ce qu'il faut retenir, quoi de tout ça, Dominique, exactement?
Bah écoutez, ben Mathieu, des choses simples. Tout d'abord, le lait n'est en rien un aliment indispensable à la santé passé l'âge de 2 ans, et un doute existe sur ses effets délétères à l'âge adulte. Ensuite, que les produits laitiers fermentés, comme les fromages ou les yaourts, ne sont pas non plus indispensables, mais que leur consommation raisonnable ne paraît pas associée à un risque particulier. Délaissons donc le lait à boire et dégustons les fromages de notre terroir s'ils nous font envie et non pour renforcer notre squelette.
Voilà, une stat à la con et des bons conseils. C'était la chronique du docteur Dupagne. À mardi prochain, Dominique.
À mardi.
Right on time, back by the beach. Still gonna bring the heat.
Hit avec Jungle sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
La composition des mondes, c'est donc un livre d'entretien qui sort aux éditions Flammarion entre l'anthropologue Philippe Descola et le philosophe Pierre Charbonnier qui sont donc mes invités cet après-midi. L'occasion de découvrir ou de mieux comprendre la trajectoire scientifique, le parcours d'un anthropologue majeur, ses recherches sur le terrain, en Amazonie en particulier, et ses travaux donc sur le rapport des hommes à la nature. Vous nous rejoignez avec vos messages qui arrivent déjà, vos questions franceinter.fr et les réseaux sociaux avec les messages courts sur le mot-clé l'attaque. Un diadème en plume d'ara. C'est l'objet justement qui est en couverture de ce livre, Philippe Descola. Qu'est-ce qu'il nous raconte d'ailleurs ce diadème issu du musée du Quai Branly? Est-ce qu'à lui seul d'ailleurs il pourrait illustrer au fond votre parcours?
Ah, complètement. C'est un paricot, c'est un diadème bororo. Et il y a quelques années, une anthropologue brésilienne a consacré un livre à ce diadème, pas celui-là en particulier, à cette catégorie de parures de plumes. Les boros sont réputés pour leur art de la plume et la complexité de leur parure. Et elle disait qu'elle avait été obligée de se cantonner à ce simple diadème tellement la complexité de ses significations était grande, parce que chaque rang de plumes signifie quelque chose et l'interpolation des plumes dans les différents rangs varie en fonction de la position sociale des gens qui la portent, etc. Donc une monographie de 300 pages consacrée à ce seul diadème. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'à l'intérieur même de l'Amazonie, il y a une diversité immense, qu'à l'intérieur même d'une seule culture, les bororos, il y a une diversité immense, et qu'à l'intérieur même de cette culture, un seul type d'ornement peut permettre de mieux penser la complexité des signes au moyen desquels les humains se distinguent les uns des autres. Oui. Et donc, au fond, c'est le signe de la diversité. C'est sous ce signe-là que ce livre, je crois, a été pensé, que nous l'avons fait, Pierre Charbonnier et moi.
Alors, comment justement Pierre Charbonnier est né l'idée de ce livre, et quel est d'abord votre lien avec Philippe Descola?
Alors, ce livre vient d'assez loin, puisque ça fait bientôt 2 ans qu'on y travaille tous les deux. Et moi, vous savez, je suis un philosophe un peu particulier, puisque je ne travaille, pour ainsi dire, qu'avec des gens du monde des sciences sociales, et notamment avec des anthropologues. Et la raison de cette identité philosophique, pour moi, tient en bonne partie à Philippe Descola, puisque c'est quand j'ai commencé à être un très jeune chercheur en philosophie que j'ai lu son livre « Part de la nature et culture » et que j'ai eu envie moi-même de travailler sur la question des rapports entre nature et société. Un travail au cours duquel donc, j'ai pu le rencontrer et puis qui a abouti dans ce dialogue publié aujourd'hui.
Voilà. Il était dans le jury de votre thèse aussi, Philippe Descola, c'est ça ? Ce qui est quand même pas rien. Voilà. Donc il a quand même un lien tout à fait particulier avec vous.
Oui, il a depuis fait d'autres jurys de thèse, y compris en philosophie.
Oui.
Je ne suis pas le seul à m'intéresser et à susciter son intérêt.
Voilà, donc ces entretiens qui paraissent aux éditions Flammarion. Avec ce livre, d'abord j'ai envie de dire qu'il se lit presque comme un carnet de voyage, Philippe Descola. On découvre non seulement votre parcours scientifique, votre œuvre, mais aussi la façon de travailler d'un anthropologue sur le terrain, donc en l'occurrence pour vous dans la forêt amazonienne. Et vous racontez de façon tout à fait passionnante donc votre arrivée dans la forêt, votre premier contact avec les Indiens, votre vie quotidienne auprès d'eux, la question de la langue, celle du retour aussi en France après 3 années immergées chez les Jachoirs. Et c'est vrai que pour un lecteur, c'est évidemment très intéressant de voir et de lire toutes ces étapes essentielles dans votre travail de terrain. Parce que c'est assez fascinant, au fond, pour le commun des mortels, d'imaginer être lui-même immergé dans cette forêt incroyable.
Oui, à vrai dire, ça ne demande pas de grand talent que d'être un ethnographe. Ça demande de l'humilité, ça demande de la patience, ça demande une certaine ouverture à autrui, mais qui est quelque chose qui est fort heureusement assez répandu. Et un peu de flair
aussi. Ça se discute, mais bon.
Ça se discute, oui, mais au fond, si on décide d'aller loin pour rencontrer d'autres, c'est qu'on a ce genre d'intérêt. Et ce qu'il faut, c'est simplement, c'est beaucoup de patience. C'est-à-dire que tous les jours, le plus difficile dans ce métier, c'est au terme de la journée, à la nuit tombée, assez souvent, de réunir toutes les notes qu'on a prises, de retranscrire dans les cahiers de terrain. Et ça prend quelquefois une heure ou deux. Et donc, au fond, au lieu de se laisser aller à observer comme un badaud le spectacle du monde, ce qui est ma tendance naturelle, et c'est comme ça que je suis devenu anthropologue, d'une certaine façon, en faire quelque chose de plus. Et essayer de commencer la synthèse déjà en prenant des notes.
Ouais, alors justement, Pierre Charbonnier, vous aviez envie de poser ces questions à Philippe Descola ou c'était avant tout pour informer les lecteurs de ce travail d'anthropologue ?
Alors notre débat s'est situé à plusieurs niveaux. Effectivement, un niveau à la fois, on peut dire, biographique, celui de l'expérience, mais aussi un niveau théorique qui est plus propre à ce que nous, philosophes, avons l'habitude de faire. Mais c'est vrai qu'une des grandes originalités des anthropologues au sein des sciences sociales, et en fait dans les sciences en général, c'est le fait que pour eux, l'expérience biographique se confond complètement avec la démarche scientifique. Et cette, si je dis confusion, on va entendre qu'il y a un mélange des genres, mais en tout cas, ce mélange des deux registres est très important pour un philosophe parce qu'il donne à voir permet de rentrer dans la fabrique de la scientificité de l'anthropologie. Et c'est aussi sur cet aspect-là que j'ai voulu discuter avec Philippe Descola.
Ouais, justement, Philippe Descola, cette façon de faire de l'anthropologie, telle que vous la décrivez dans ce livre, est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'au fond, c'est le parcours d'un anthropologue qui s'inscrit dans une époque révolue aujourd'hui ? Parce que c'est 3 années sur le terrain dans la forêt amazonienne, en ce qui vous concerne.
Non, je ne pense pas. Mes étudiants continuent à faire du terrain, de longue durée. C'est peut-être d'ailleurs l'une des caractéristiques de l'anthropologie française par rapport, par exemple, à ce qui se fait au Royaume-Uni ou aux États-Unis, qui sont les deux grandes puissances anthropologiques dans le monde, où la durée de l'enquête de terrain a été considérablement réduite pour des raisons budgétaires. Et où par conséquent la nature même des informations recueillies diffère, parce que on ne commence véritablement à comprendre les choses qu'au bout d'un an. Vous savez, c'est comme dans le rapport avec son psychanalyste, il y a des périodes comme ça qui sont fixes.
Pour vous, la première année, ça a été l'issue de cette première année, le moment où vous avez pu aussi dialoguer, comprendre réellement la langue des Jachoirs.
Bien sûr, quand on va dans une région dont la langue ne s'enseigne pas dans une institution, institution qu'il faut l'apprendre sur place, à moins d'avoir un talent exceptionnel, il est rare qu'on puisse apprendre une langue de ce type-là en moins d'un an.
Donc vous dites que c'est un film en version originale, mais non sous-titré, quand on arrive évidemment dans une communauté dont on ne connaît pas la langue.
Oui, on travaille un peu comme un éthologue, c'est-à-dire qu'on observe des comportements sans comprendre ce qui se dit, ce qui est d'ailleurs très intéressant, et on s'aperçoit ensuite des erreurs d'interprétation qu'on avait faites, et c'est, si je prends la métaphore du film avec les sous-titres, c'est que peu à peu, on voit des bribes de sous-titres apparaître, on comprend de mieux en mieux ce qui se dit, et lorsqu'on finit par tout comprendre, on s'aperçoit d'ailleurs que les gens, la plupart du temps, disent des banalités, mais ces banalités sont elles-mêmes révélatrices de quelque chose d'important. Ouais. Et c'est ce travail donc se poursuit. Les gens de la génération de Pierre, les ethnologues de sa génération, continuent à faire du terrain dans des circonstances différentes. Il se trouve que les Atchouas, au moment où nous y avons mis les pieds avec Anne-Christine Taylor, ma compagne,
vous étiez en couple, hein, donc il faut le dire.
Couple, hein. Oui.
C'est important dans aussi cette expérience.
Bien sûr, c'est très
expérience.
Important. Parce que ça permet aussi d'être moins exotique aux yeux des gens chez qui on réside. Un homme seul est toujours un peu inquiétant. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes revenus ensuite à plusieurs reprises avec nos enfants, nous n'avions pas d'enfants à l'époque, nous sommes devenus pleinement normaux. Parce que nous étions comme eux, en somme. Ouais. Et en reconnaissant, ils lisaient dans nos comportements, comme nous lisions dans leurs comportements, ils lisaient dans nos comportements des choses qu'ils pensaient pouvoir décrypter comme étant familière. Et de ce point de vue-là, il y a un processus d'apprivoisement réciproque qui est important. Simplement, la différence maintenant, c'est que les Atchouas venaient d'accepter les premiers contacts pacifiques et que ce genre de situation est devenu tout à fait exceptionnel. Mais ça n'empêche pas des ethnographes de continuer à faire du terrain, y compris sur des choses très contemporaines. Très beau, la monographie de Edwin Hutchins sur un bateau de guerre de la marine américaine, par exemple, est admirable. Donc, il n'y a rien qui ne puisse se prêter à une enquête ethnographique.
Oui, donc en Équateur, pour vous, 3 années donc, dans la forêt amazonienne. Alors, on va écouter le son, la voix, le chant des Atchouas. Alors, pas en Équateur, justement, mais au Pérou, extrait d'un documentaire. On l'écoute ensemble et on en parle juste après.
Quand nous étions jeunes, ici, dans cette maison, il y avait des anciens. Et quand ils buvaient du massato, ils chantaient ceci, comme je vais vous montrer. Ils chantaient le soleil.
Voilà, le chant Atchouas, donc, mais du Pérou, Philippe Descola.
Oui, mais c'est un chant sensiblement, parfaitement,
voilà,
c'est la même chose. Oui, c'est
ce que vous avez vécu
en Équateur. C'est un chant de fête. C'est un chant de fête, c'est pas un chant magique, ce sont pas les chants qui permettent de communiquer avec l'âme des plantes et des animaux, ce sont les chants qu'on chante dans les nambettes, qui sont les fêtes de boissons, et qui sont des chants profanes, et qui débouchent assez souvent d'ailleurs sur des danses, avec des tambours, voilà.
Ouais, c'est fêtes de boissons, hein, c'est ça.
Oui, parce qu'on y boit de la bière de manioc en grande quantité, et qui est c'est une bière qui n'est pas très alcoolisée, mais quand on en boit une dizaine de litres, on finit par être un peu allumé.
Une vraie fête de boisson, donc effectivement. Jean-Jacques nous demande ceci sur franceinter.fr. Observateur pour l'anthropologue, comment peut-il s'intégrer à un groupe sans qu'il perturbe celui-ci? Alors, quelle est la position exactement d'un anthropologue, surtout pendant ces 3 années de vie, donc au milieu de cette société Atchouas, hein?
Oh, bah, c'est une question qu'on nous pose souvent, en effet. C'est la raison pour laquelle les ethnologues partent seuls ou en couple au maximum et jamais en expédition. Mais si vous imaginez une personne ou deux immergée dans un groupe de 5000 personnes, la capacité qu'ils ont de perturber la vie quotidienne est très faible. Et en réalité, elle est toujours présente. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a, au début, par exemple, lorsque nous recueillions des généalogies, ces généalogies étaient un peu bidouillées, c'est-à-dire que les gens, ayant déjà vu passer des missionnaires, avaient eu tendance à éloigner d'un degré généalogique des gens qu'ils avaient tués. Et en fait, lorsque par recoupement nous avons vérifié ces généalogies au fil du temps, on s'est aperçu que c'était des gens beaucoup plus proches. Donc voilà le genre de petit décalage qu'implique la présence de l'ethnologue. Mais en fond, lorsque vous êtes... L'idéal, c'est d'être un objet parmi les objets dans une maison.
C'était de, donc ça sous-entend une certaine passivité, alors,
ça,
quand même.
Ça demande d'être... une passivité, non, parce qu'on participe à la vie quotidienne, bien sûr. On devient assez vite transparent. Surtout lorsqu'on comprend la langue, au fond, on n'a plus besoin de poser de questions, puisque simplement, on entend ce que les gens disent, on entend leur conversation, on peut relancer la conversation comme on le fait dans la vie quotidienne. Donc, de ce point de vue-là, on est beaucoup moins perturbateurs que les missionnaires ou les compagnies de prospection pétrolière ou les grands propriétaires terriens qui envoient leurs milices pour brûler les villages.
Ouais, mais jusqu'où on peut aller en tant que, justement, anthropologue dans la vie même du village dans lequel vous avez vécu donc pendant 3 ans, vous parlez par exemple de la violence des hommes envers les femmes.
Oui.
Comment est-ce que vous, justement, avec votre femme, en tant que couple, vous avez réagi face à cette violence ?
Oui, ça fait partie des choses qu'il était difficile d'accepter. Mais en même temps, nous n'étions pas là pour faire la morale. Donc lorsque nous faisions des remontrances, ça m'est arrivé une fois ou deux à des hommes qui avaient brutalisé leurs femmes. Ils ne répliquaient « mais tu parles comme les missionnaires ». Et effectivement, ça me clouait le bec, parce que je disais par ailleurs que nous étions venus uniquement pour essayer de comprendre leur vie quotidienne, pour apprendre leur langue, mais pas pour les évangéliser, à ce moment-là, si nous commencions à faire la morale, nous étions immédiatement assimilés à des missionnaires. Et donc, il y a effectivement une limite dans l'expérience ethnographique qui vient du fait que certaines pratiques qui nous choquent, nous sommes dans l'incapacité, au fond, de les réformer. Parce que ça n'est pas le métier de l'ethnologue de le faire.
Alors, il y avait eu une première expérience avant, justement, les hachoirs d'Équateur, au Mexique, en 1973, Philippe Descola. Première expérience ethnographique inaboutie, mais premier contact avec la forêt amazonienne. Donc, ça a quand même été très important pour vous.
Ce n'était pas la forêt amazonienne, c'est la forêt équatoriale, la forêt tropicale. C'était chez des Indiens Tsaltal, qui étaient des Indiens des hautes terres du Chiapas, qui s'étaient déplacés suite aux pressions des propriétaires terriens pour coloniser les basses terres, c'est-à-dire vraiment une zone de forêt à la frontière du Mexique et du Guatemala. Et ces gens s'étaient installés là, et comme ils n'avaient pas du tout l'expérience, c'était un peu comme les Indiens des Andes qui colonisent l'Amazonie, que nous avons vu aussi en Équateur, ils n'avaient pas l'expérience de cet environnement, ils y étaient assez malheureux. Et c'est probablement le fait qu'ils se sentaient mal à l'aise dans cet environnement qui nous a conduit à préférer plutôt aller en Amazonie, mais qui en même temps m'a fait découvrir la forêt et son extraordinaire, son exubérance, sa diversité, sa complexité. C'est un milieu qui, une fois qu'on y a goûté, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, mais lorsque on l'aime, on en devient passionnément épris.
Ouais. Et Pierre Charbonnier, justement, vous posez cette question à Philippe Descola, inspiré par Claude Lévi-Strauss, sur l'idée que les régions du monde ont des personnalités. Qu'on peut être tout d'un coup en harmonie totale avec un lieu.
Oui, il y a une chose qui frappe beaucoup quand on n'est pas soi-même anthropologue et qu'on commence à fréquenter les gens de cette corporation, c'est qu'ils se reconnaissent entre eux à partir des terrains qu'ils ont faits. Ils sont amazonistes, ils sont mélanésistes, ils sont africanistes, et même si ils se comprennent évidemment entre eux, ils conservent une sorte de totémisme sourd, puisqu'ils se considèrent quasiment comme les reflets modernes des ethnies chez lesquelles ils ont travaillé. C'est une chose que nous, philosophes, connaissons d'une certaine manière, puisqu'on a aussi nos kantiens, nos platoniciens et nos heideggeriens, mais je crois que l'origine de ces clivages est beaucoup moins importante chez les philosophes qu'elle ne l'est chez les anthropologues.
Donc Philippe Descola, il y a eu cette résonance pour vous, véritablement avec la forêt amazonienne.
Oui, et je pense aussi que c'est une forme d'expérience de vie, c'est-à-dire que les amazonistes, comme le dit Pierre Charbonnier, c'est des gens qui, en tout cas pour ceux de ma génération, ont vécu dans un certain type de milieu, à une certaine époque, en partageant la vie des Amérindiens, sans médiation, dans des conditions un peu difficiles parfois, et qui ont passionnément aimé les populations avec lesquelles ils vivaient, qui ont aimé vivre comme eux, qui ont aimé chasser à la sarbacane et se baigner dans les rivières. Et de ce point de vue-là, ça crée une complicité dans ce genre d'expérience par rapport à d'autres corporations, enfin plus exactement à d'autres ethnologues ayant travaillé dans d'autres régions du monde dont l'expérience de terrain est complètement différente.
La composition des mondes, donc ces entretiens sont publiés chez Flammarion, on vous retrouve dans un instant. Tindall avec À Séville sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
La composition des mondes, l'anthropologue Philippe Descola répond au philosophe Pierre Charbonnier dans ce livre donc, qui paraît aux éditions Flammarion, livre donc sur un parcours, sur une pensée, avec vos questions, vos messages, franceinter.fr et le hashtag l'attaque pour nous rejoindre également sur les réseaux sociaux. Philippe Descola, ces 3 années donc, en forêt amazonienne, c'est la deuxième moitié des années 70, vous partez donc en couple avec votre femme. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée pendant 3 ans dans une société hachoir?
Il arrive souvent qu'on s'ennuie. La chose était un peu différente pour ma femme et pour moi, puisque ma femme travaillait avec les femmes dans les jardins. alors que l'activité d'un homme, c'est la chasse. Moi, j'étais un très mauvais chasseur, j'avais amené un fusil, mais...
Est-ce que vous avez manié la sarbacane de temps en
temps ?
Oui,
j'ai manié la sarbacane, mais le problème de la chasse, c'est pas tellement d'arriver à atteindre un animal, c'est de trouver l'animal d'abord. Et pour trouver l'animal, il faut une connaissance éthologique, écologique d'une manière générale, une connaissance du milieu qui s'acquiert... très progressivement. Par exemple, chez les Alchoirs, les meilleurs chasseurs, c'était des hommes qui avaient passé déjà la trentaine, ou alors que un garçon d'une douzaine d'années connaît, peut reconnaître 200 ou 300 chants d'oiseaux, par exemple, nommer les oiseaux, de dire quel est leur habitat, quelles sont leurs mœurs, etc. Donc la connaissance naturaliste des gens est remarquable, mais savoir maîtriser cette connaissance dans des réactions automatiques, mais ça c'est quelque chose qui est propre à la chasse d'une manière générale, un peu partout, à la vraie chasse, j'entends pas aux chasses de battue ou des choses comme ça, la chasse où véritablement il s'agit de découvrir les traces d'un animal en déchiffrant des indices, ça prend beaucoup de temps. Donc j'étais un très mauvais chasseur, et lorsque j'allais à la chasse, en général, je rentrais bredouille. Si je partais avec des Alchois, ils n'étaient pas très contents parce que je faisais beaucoup trop de bruit. Et donc, ce n'était pas toujours très facile. Heureusement, il y avait aussi des activités collectives, comme de construire des maisons, de fabriquer des barrages, de faire des choses comme ça, dans lesquelles je pouvais au moins faire semblant de participer aux activités sans être complètement contre-productif.
Et ce qui vous intéresse, donc, c'est le rapport à la nature de ces Indiens, Jivaro ?
Oui, bien sûr, c'est ce que j'étais parti étudier.
C'est l'objet de votre travail. Hein.
Bien sûr, bien sûr, j'étais parti étudier les rapports d'une société à son environnement. J'étais parti au fond avec l'idée que une société s'adapte à un certain type d'environnement, développe des institutions qui lui permettent de maîtriser cet environnement. Et progressivement, je me suis aperçu que ça n'avait guère de sens chez les Alchoirs, parce que d'une part, cet environnement, il était en partie le produit de l'activité humaine, puisque la forêt avait été progressivement transformée par les pratiques culturales et par la manipulation des végétaux au fil des siècles et des millénaires. Autrement dit, la forêt amazonienne n'est pas un gros morceau de forêt vierge, c'est un environnement qui est anthropique, qui a été largement le produit de l'action humaine. Et d'autre part, les Alchoirs maintenaient un rapport constant d'interlocution avec les plantes et les animaux, puisque par les rêves, par les incantations magiques, ils parlaient à leur âme. Et donc, même s'ils les mangeaient par ailleurs, ce n'est pas une affaire de compassion. C'est simplement que le statut des plantes et des animaux était très différent de celui qu'ils avaient.
Donc ça vous intéresse évidemment. C'est ce comportement avec les non-humains. Hein,
bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, donc, alors que j'étais parti pour comprendre comment une société socialise la nature, je suis revenu avec l'idée qu'il y a des rapports très particuliers qui se nouent entre les humains et les non-humains, et que ces rapports sont différents selon les choix des propriétés que les humains choisissent de caractériser ou de distinguer ou de détecter parmi les non-humains. Ce qui a été l'amorce en fait de ce grand travail d'anthropologie comparative que j'ai mené ensuite par la suite.
Et dont on va parler dans un instant. On repart en Équateur, extrait donc toujours de ce même documentaire, une séance de chamanisme pour comprendre les rapports justement des Alchoirs avec les plantes.
Le chaman fait intervenir les forces de la nature par le biais de l'ayahuasca, la plante des dieux, une boisson à base de racines. Son patient se plaint de contractures dans le dos. Dans la croyance achuar, les dieux et les âmes des anciens logent dans les arbres et dans l'eau. Ensakua se sert de branchages pour recueillir et chasser les douleurs. Ensuite, le chaman entreprend la thérapie à proprement parler. Le liquide est censé débloquer la contracture et éliminer la cause des douleurs.
Vous Voilà, Philippe Descola, l'usage des plantes donc pour la médecine traditionnelle. Alors, c'est toujours une réalité d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il y a la médecine occidentale qui a fait son apparition, avec des médecins aussi qui s'installent non loin des villages. Mais les plantes sont toujours...
Des médecins, il y en a malheureusement pas autant qu'on pourrait le souhaiter, mais il y a un minimum maintenant d'encadrement médical qui fait qu'en particulier ce qui est affecté au premier chef des populations comme les Achuas, à savoir la mortalité infantile et néonatale, a considérablement diminué. Il faut souligner qu'il y a une différence entre ce que fait le chaman, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire, au fond, il est en train de projeter ses fléchettes magiques qui sont stockées dans son torse. Il les envoie dans le malade pour, par aimantation, attirer les fléchettes magiques qui affectent le malade et ensuite les réingurgiter de façon à soulager la douleur. Ça, c'est une opération chamanique standard que tous les chamans font. Ils se servent pour cela d'ayahuasca, mais l'ayahuasca, c'est pas une racine, c'est une liane. Et ça n'a pas vraiment de rapport avec les dieux. Ça, c'est un hallucinogène puissant qui permet aux chamans d'entrer en contact avec ces esprits auxiliaires qui vont l'aider dans cette opération d'extraction des principes pathogènes dans le corps du patient. Ça, c'est un aspect. Et puis, il y a un autre aspect qui est le traitement par les simples, par les plantes médicinales, que tout le monde peut faire, qui n'est pas, au fond, aussi développé dans les faits qui pourrait l'être, parce que, comme tous les ethnographes intéressés par ces questions, j'ai fait la liste de toutes les plantes utilisées par les Achuars pour soigner depuis les conjonctivites jusqu'aux luxations, en passant par les coliques, etc. Mais dès qu'une maladie résiste un petit peu, dès qu'une plaie même superficielle ne se cicatrise pas, elle est et c'est interprété comme étant l'action d'un chaman ennemi. Autrement dit, il y a une limite en quelque sorte au traitement par les plantes qui est cette idée de l'intentionnalité du mal. Un mal, au fond, peut être accidentel dans un premier temps, mais s'il persiste et qu'il y a derrière une volonté maligne, et cette volonté maligne, c'est celle d'un chaman. Oui. Donc il y a une gradation, si vous voulez, entre le traitement des maladies qui peut être fait par les simples et celui qui peut être fait par le chaman.
Autre exemple avec les plantes, toujours les plantes cultivées, vous racontez dans l'ouvrage qu'elles étaient traitées comme des parents consanguins. Oui. Donc ça montre aussi la relation des Achuars avec les non-humains plantes.
Oui, bien sûr. Il y avait deux types de relations fondamentales qui caractérisent d'une manière générale les rapports des Achuas avec les humains, qui sont les rapports de consanguinité, qui sont tracés avec des parents avec lesquels on peut établir une filiation, et puis les rapports d'alliance, qui sont les rapports d'alliance de mariage avec les affins, le terme qu'on emploie en ethnologie pour désigner les parents par alliance. Et les plantes et les animaux étaient traités selon ces mêmes catégories, c'est-à-dire que les plantes cultivées étaient traitées comme des consanguins par les femmes qui les cultivent, et les animaux chassés comme des affins, c'est comme des parents par alliance, par les hommes qui les chassent. Et les conduites prescrites vis-à-vis des uns et des autres suivaient ces deux voies, en quelque sorte.
Pierre Charbonnier, trois ouvrages peut-être qui émergent dans le travail de Philippe Descola. D'abord son travail de thèse, quand même, qui est très important. La nature domestique. Après, Les lances du crépuscule, alors là, qui est un ouvrage vraiment qui s'adresse au grand public. C'est aussi une autre façon pour l'anthropologue de faire connaître son travail. Ça, c'est en 93. Et puis ensuite, 2005, la publication de Par-delà, nature et culture. Qu'est-ce que cet ouvrage-là, en particulier, Par-delà, nature et culture, représente dans l'œuvre de Philippe Descola, selon vous ?
Alors, cet ouvrage donc est paru maintenant il y a une dizaine d'années, et la montée en généralité, voire en systématisation, du travail anthropologique que Philippe Descola avait mené d'abord sur son terrain en Amazonie, c'est le couronnement d'un travail comparatiste qui intervient assez rarement dans les carrières des anthropologues, mais qui est intervenu chez Philippe Descola. Et la grande découverte de ce livre, qui est en fait l'approfondissement et la radicalisation de ce qui avait été mis en place dans sa thèse, c'est l'idée toute simple qui veut qu'on ne peut pas faire de sociologie sans s'intéresser aux rapports entre les humains et les non-humains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce que sont les rapports sociaux si on ne s'intéresse pas à ce qui, nous, non seulement des sujets des sujets d'action, des humains, avec des animaux, des milieux, des plantes, mais aussi le climat, etc. Et cette découverte, qui est une découverte scientifique arrangée au même niveau que des découvertes scientifiques que pourrait faire un biologiste ou un physicien, est cruciale pour la marche des sciences sociales aujourd'hui, puisqu'elle nous oblige à repenser de fond en comble les cadres qui sont ceux de la philosophie, parce que c'est notre panorama conceptuel qui change, mais aussi ceux des sciences politiques au sens large, c'est-à-dire de la sociologie, de l'histoire, puisque si on veut faire une bonne sociologie, il faut aussi s'intéresser à ce qui a noué nous, humains modernes, industrialisés, des sociétés démocratiques, etc., avec notre nature, nos environnements, mais aussi comprendre l'évolution historique, enfin, le devenir historique en fonction de son rapport à la nature. Bref, ce déplacement fondamental des termes des sciences sociales est, l'hypothèse centrale de cet ouvrage, raison pour laquelle il a eu un écho bien au-delà de sa discipline d'origine, et notamment en philosophie.
Voilà, avec une médaille d'or du CNRS également, qui a couronné au fond cette découverte, Philippe Descola, qui est issue directement aussi de votre travail de terrain. Enfin, on voit un lien direct entre ce que vous avez vécu dans les années 70 et cette découverte que vous révélez.
Oui, parce que ce qui va devenir la marotte d'un anthropologue, qui va devenir son sujet obsessif, naît en général de l'ébranlement des certitudes qu'il subit lorsqu'il fait son travail de terrain. Et le fait de découvrir chez les Hatchoirs qu'il n'y avait pas véritablement d'opposition entre nature et société m'a conduit à cette ambition un peu folle de vouloir repenser les différentes formes de relations entre humains et non-humains, indépendamment de ce cadre général au moyen duquel on le pensait habituellement en Europe, qui était l'opposition entre une société et son environnement.
Et pour ça, vous proposez quatre combinaisons possibles, quatre ontologies. Une question de Micha, est-ce que vous pouvez justement nous dire, vous développer cette notion d'analogisme que vous opposez à l'animisme et au totémisme? Oui. Alors en 1 minute 30, je suis désolé parce que c'est vraiment, on en avait déjà parlé dans La Tête au Carré, on peut même réécouter l'émission, vous développez beaucoup ces ontologies, mais pour répondre à Micha...
L'analogisme, tout simplement, c'est l'idée que tous les éléments du monde sont des singularités, ce sont des objets sont des objets particuliers. Et pour penser et habiter un monde composé de singularités, il faut pouvoir nouer entre ces singularités des liens d'analogie, de correspondance. Alors le plus classique, si vous voulez, c'est la hiérarchie. Et notamment une qui a joué un rôle considérable dans notre propre passé analogiste, c'est-à-dire au Moyen-Âge et à la Renaissance, qui est l'idée d'hiérarchie. La hiérarchie, c'est la hiérarchie des êtres du monde qui sont articulés le long d'une longue chaîne, et chacun d'entre eux est séparé par un tout petit écart de l'être qui précède et de l'être qui suit, mais la totalité de cette chaîne fait une continuité qui permet de comprendre la totalité des êtres du monde.
Voilà. Et on avait discuté justement de ces ontologies dans une précédente Tête au Carré. Donc vraiment, j'invite les auditeurs à l'écouter parce qu'elle est disponible sur le site. Et puis bien sûr, vous l'évoquez dans cet ouvrage, dans ces entretiens avec Pierre Charbonnier, La composition des mondes qui paraît aux éditions Flammarion. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans La Tête au Carré. Émission donc à réécouter sur franceinter.fr.
Merci à vous. I never dreamed that I'd lose somebody like you.
Chris Isaak avec Wicked Game à l'instant et vous êtes sur France Inter. De nouvelles questions scientifiques, c'est l'heure du quiz de la tête au carré. Bonjour Florence Porcel.
Bonjour Mathieu.
Vous nous présentez nos deux nouveaux candidats.
Mais oui, il s'agit de Damien et de Anne. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Anne, vous nous appelez Delila en Seine-Saint-Denis.
Oui.
Et vous êtes musicienne, paraît-il.
Oui.
Qu'est-ce que vous jouez comme instrument exactement ?
Je fais du piano, du violon, du chant, de la guitare, je compose, j'écris, voilà.
Vous jouez dans un groupe ? Vous enregistrez des albums ? Qu'est-ce que vous faites ?
Voilà, à la fois j'ai un projet solo et à la fois je joue dans différents groupes.
Bon, bah, j'espère qu'on vous diffusera sur France Inter un jour en tout cas.
Bah, j'aimerais bien, oui.
Face à vous se trouve Damien. Bonjour Damien.
Bonjour.
Vous êtes à Orléans, on ne vous réveille pas Damien, tout va bien ?
Non, la même heure que Paris.
Bon alors ça va, vous êtes analyste programmeur, c'est ça ?
C'est ça.
Bon, bah écoutez, je ne sais pas s'il y aura des questions dans ce domaine dans un instant, mais je vous souhaite bonne chance à tous les deux. On va jouer avec les éditions Belin cette semaine,
mais
Florence.
Mais oui, hein. Nous offrirons au gagnant ou à la gagnante le livre Micromonde, un voyage sous l'œil du microscope. Bonne chance à tous les deux.
Allez Anne et Damien, on démarre tout de suite, voici la question d'actualité. Au sujet de chercheurs qui ont récemment observé en Afghanistan une espèce de cerf qui n'avait pas été aperçu depuis 66 ans. Les mâles de cette espèce possèdent une glande qui sécrète une substance odorante très prisée. Quelle est donc la substance odorante qui donne son nom à cette espèce de cerf ? Vous avez 30 secondes, le chrono est lancé. Alors, substance odorante, non ? Qui sert dans certains parfums. Oui. Vous en avez même peut-être porté, sans le savoir.
Quelque chose qui sent très très fort.
Voilà, et qui vient du cerf, évidemment. Non, alors moi je ne le savais pas, c'est vrai que je l'ai découvert avec le quiz, c'est très surprenant. Mais vous connaissez très très bien cette odeur très particulière,
oui.
Hein,
oui.
Assez puissante.
Assez âpre.
Assez forte, vous n'avez pas d'idée. Hein.
Non, vraiment pas d'idée.
Aïe. Ça ne me surprend pas, hein, j'allais vous dire, parce qu'il s'agit du musc.
Oh.
Et Florence, vous allez nous raconter D'accord. cette histoire, hein,
Mais
parce
oui.
qu'elle est fort intéressante.
Mais hein. oui, alors ce sont donc 5 cerfs porte-musc qui ont été observés. Et si leur glande, qui sécrète le musc, est indispensable à la reproduction, elle est aussi très prisée par l'industrie des cosmétiques, puisque le musc aide à la fabrication des parfums. Alors sur le marché noir, par exemple, 1 kilo de musc peut valoir 150 000 euros. Mais il semble que ces cerfs ne soient pas en voie de disparition en Afghanistan, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, donc voilà. Lorsque l'on porte du musc, eh bien, ce musc est extrait des glandes abdominales des cerfs porte-musc,
oui,
voilà, d'Asie centrale. Anne, est-ce que vous en portez de temps en temps ?
Je porte du parfum, après je ne sais pas s'il y a du musc dedans, je ne sais rien.
Bon, bah en tout cas on a appris quelque chose, mais hélas ça ne vous donne pas de points
pas de
pour
points.
Démarrer. Donc non. Tout est encore possible avec les questions de rapidité. 7 questions pour vous, 1 minute 30 pour y répondre. Anne et Damien, est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Prêt.
C'est parti, on lance le chrono. Quelle partie du corps humain relie le larynx à l'estomac, s'il vous plaît ?
L'œsophage.
L'œsophage, Damien, bonne réponse. Sous quel sigle l'acide désoxyribonucléique est-il plus connu ?
L'ADN.
L'ADN, Damien. Quel métal appelait-on également vif argent ? C'était l'ancien nom de ce métal.
Vif argent.
Qui est dû à sa couleur ? Non.
Le cuivre ?
Non.
L'étain ?
Non.
Allez, l'or blanc ?
Non plus. Allez, on passe à la quatrième question. Quel était le nom de code du projet qui a conduit à la première bombe atomique ? On en a parlé la semaine dernière dans l'émission d'ailleurs. Le nom de code. Ah, je suis sûr.
Non, ça c'était le nom de la bombe.
Ouais. Ah, je suis sûr que vous le connaissez. Allez, on passe à la cinquième question. À quelle famille de fleurs appartiennent les cattleyas très présentes dans Un amour de Swann de Marcel Proust ? Les cattleyas. Cette fleur magnifique. Bon, on va passer à la sixième question. Allez, sur les plages d'Aquitaine, comment se nomment les formations géologiques temporaires qui ressemblent à des petites piscines naturelles, dont il faut se méfier d'ailleurs également.
On peut s'y noyer.
Voilà. Ça ne vous dit rien ?
Les anses.
Non. Allez, septième question. Quel astronaute américain qui a 36 ans aujourd'hui a failli fêter son anniversaire hier depuis la Station Spatiale Internationale ? Je ne sais pas si vous connaissez son nom.
Il faut redescendre du sous hier.
Oui.
Non.
Bon,
il s'appelle Red Wiseman.
Et il aurait dû fêter son anniversaire hier, en fait,
ce
brave
garçon. C'est ça.
Eh bien, bon anniversaire à lui.
Voilà, il a publié même des photos.
Des photos sur Twitter,
sur Twitter. Alors, beaucoup de questions sans réponse. Le métal qu'on appelait également le vif argent, c'était le mercure.
C'était le mercure, oui, dû à sa couleur argentée. Ah, c'était son ancien nom.
Quel était le nom de code du projet qui a conduit à la première bombe atomique ? Vous le connaissez, j'en suis sûr.
C'était le projet Manhattan.
Voilà, projet américain avec la participation du Canada de 1939 à 1946 et le premier essai Trinity d'une bombe à plutonium le 16 juillet 1945 au Nouveau-Mexique. Cette magnifique fleur, les cattleyas, alors ça je pensais que vous alliez trouver.
C'était des orchidées.
Tout simplement, c'est de la famille
Je l'avais dit mais ça s'est peut-être pas entendu.
On l'a pas entendu.
Alors Damien, effectivement, on ne vous a pas entendu. Ça devait être dans le brouhaha de nos paroles. Bon, bah écoutez, on vous fait confiance. On réécoutera l'enregistrement, mais on vous donne quand même 5
points
pour cette réponse. Et puis enfin, sixième question. Sur les plages d'Aquitaine, comment se nomment les formations géologiques temporaires qui ressemblent à des petites piscines naturelles ? Ce sont les baïnes.
Les baïnes, effectivement. Elles engendrent des courants d'arrachement très dangereux. Voilà. Et un moyen mnémotechnique pour se souvenir des dangers, c'est que baïne, ça peut dire bassin apparemment inoffensif à noyade éventuelle.
Voilà. Et au Pays Basque, hein, on se méfie beaucoup, des baïnes en particulier. Alors, on fait le compte des points. Du coup, avec 5 points, c'est sûr, pour Damien. Mais le reste...
Ça fait 15 points pour Damien.
Et aucun point pour Anne.
Hélas.
Pour l'instant, ne vous découragez pas, Anne. Le mot mystère arrive. On vous a donné un mot hors antenne. On va commencer avec vous, Anne, si vous le voulez bien.
Oui.
45 secondes pour faire découvrir donc votre mot à Damien. On lance le chrono. C'est parti.
Alors, on en a sur le corps humain, c'est comme de la peau, sauf que c'est tout le temps, il y a tout le temps de l'eau, ça génère de l'eau et c'est toujours humide. C'est une région qui est toujours humide.
Non.
Toujours humide.
Visqueux même.
Oui.
Les muqueuses.
Bravo, voilà, j'allais vous parler de barrières de protection. Il s'agissait évidemment des muqueuses qui recouvrent la paroi interne de certains organes, comme l'intestin par exemple, les poumons ou la vessie. Allez Damien, c'est à vous. On va essayer d'offrir quand même quelques points à Anne avec ce mot mystère. On lance le chrono, c'est parti.
Alors elles peuvent être de fil, de film ou de Tesla. C'est un objet cylindrique autour duquel on enroule des fils.
Une bobine.
Ah ben voilà.
Tout simplement. Bravo.
Ça fait des points pour Anne, mais ça ne sera pas suffisant, j'ai l'impression.
Hélas, non. Ouais, c'est Damien qui remporte le jeu avec 25 points. Toutes nos félicitations, Damien.
Félicitations.
Ah, merci.
Voilà, bonne joueuse en plus, Anne.
Oui, vous repartez donc avec le livre Micromonde, un voyage sous l'œil du microscope des éditions Belin, avec vraiment des photos de choses microscopiques, des insectes.
Dans le monde de la nature, voilà.
Très joli.
On vous l'envoie donc à Orléans, Damien. Merci infiniment à tous les deux d'avoir joué à notre quiz. Et puis j'invite les auditeurs à faire comme vous, franceinter.fr.
Voilà, pour s'inscrire.
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous savez demain ce qui va se passer. Il y a un événement qui va se dérouler à 500 millions de kilomètres de nous.
Il y a une espèce de comète, là.
Voilà, une espèce de comète.
Bah, écoutez, vous, c'est la science, moi, c'est l'histoire. On pourrait, voilà. Pourrait jouer très bien le poursuivre.
Churyumov, Gerasimenko, demain, des centaines d'ingénieurs, de scientifiques européens vont compter fiévreusement les heures. C'est 20 ans de boulot, quand même, pour voir Philae atterrir sur la comète depuis donc, la sonde Rosetta. Et on va vivre ça demain en direct depuis la Cité des Sciences à la Villette, à Paris, avec nos invités. En duplex également de Darmstadt, en Allemagne, avec Sophie Becherel. Donc, il faut vivre ça demain. Ça va être exceptionnel. On espère évidemment que Philae va pouvoir atterrir, qu'il n'y aura pas d'accident. Donc ce sera fiévreux et ce sera crucial pour connaître peut-être les origines de notre système solaire. Donc soyez avec nous demain depuis la Cité des Sciences, on sera au niveau 1. On vous attend, l'émission La Tête au Carré sera en public. Autre émission dans un instant, en attendant cette affaire sensible. Fabrice, de quoi
oui,
on parle?
Oui, avant demain, c'est aujourd'hui et c'est dans quelques minutes, on parlera d'Action Directe ou les années de plomb à la française, vie et mort du groupe terroriste, sa mort en février 87 lorsque les quatre leaders ont été arrêtés. On en parlera avec notre invité Fanny Bugnon, historienne.
Après les infos, merci.